Alors, bon matin à vous tous. Bonjour, bon dimanche dans le Seigneur et que sa grâce et que son pardon, son amour, toutes ces belles vertus que nous trouvons en Christ nous accompagnent et aussi à Nuestra Hermana Gloria. Buenos días. Que Dios usted bendiga. Alors, ce matin, nous allons prendre nos Bibles, si vous voulez, et trouver l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, et nous allons commencer notre lecture au verset 10. Philippiens, chapitre 4, au verset 10. Et nous sommes arrivés à la fin de cette merveilleuse lettre que nous pouvons intituler « Connaître Christ et le faire connaître ». Et je vois que le titre a disparu. En tout cas, ça devrait être là. Et à l'intérieur de laquelle nous trouvons maintes et maintes fois la notion, le thème de la joie. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'il y a de la joie à connaître Christ. Il y a aussi de la joie à le faire connaître. Et laissez-moi vous donner le contexte de ce texte que nous allons lire pour vous aider à mieux comprendre le sens. Les Philippiens, cette église que Paul, l'évangéliste itinérant, avait fondée et que Paul considérait comme ses partenaires dans l'évangile, avait réussi après 10 ans, selon les commentateurs, à lui faire parvenir un don par l'un des leurs, Épaphrodite. Paul se trouve actuellement dans cet épître en prison et dans des conditions extrêmement difficiles. Et sans doute les Philippiens, qui aimaient beaucoup Paul, avaient sans doute certaines inquiétudes à son sujet. Ils avaient soutenu au début de son ministère, mais ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient rien reçu de leur part. Alors peut-être ils se demandaient, avait-il crevé de faim pendant ce temps-là? Et pire encore, maintenant qu'il était prisonnier de Rome, comment se débrouillait-il pour la bouffe et le vêtement? Est-ce que ce besoin était comblé? Comment recevraient-ils leurs dons puisque ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient rien reçu de leur part? Et eux, en revanche, ils sont extrêmement pauvres. Envoyer quelque chose à Paul était vraiment un gros sacrifice. Ils avaient donné dans la pauvreté, mais eux en retour, qu'en était-il de leurs propres besoins? Alors, vous savez, ce texte, quand on prend dans son contexte, nous démontre et parle de la confiance en Dieu qui s'applique individuellement à Paul, justement, c'est le premier contexte, l'évangéliste, et aussi à l'Église, les Philippiens. Et les deux sont impliqués justement dans cette merveilleuse œuvre de l'évangélisation. Alors, laissez-moi vous poser une question que je pose moi-même. Où en êtes-vous dans cette démarche aussi avec Dieu? En ce qui concerne la confiance, votre confiance face à votre Dieu. Et en tant d'Église, l'église de Cap-la-Madeleine, où sommes-nous rendus dans notre démarche face à la confiance envers notre Dieu? Alors, ce texte ce matin va nous encourager dans ce sens-là, dans cette démarche, et nous allons le lire à l'instant, Philippiens chapitre 4. On va arrêter au verset 20, le verset 21 à 23, ce sont les salutations. On n'aura pas le temps justement ce matin de de les voir, mais nous voulons justement considérer ce texte. Et c'est justement le titre que j'ai donné à ce texte, c'est « Mon Dieu pourvoira ». Alors lisons Philippiens chapitre 4, verset 10. Paul dit ceci, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et d'avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes. Pas c'est simple, déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alors, l'idée maîtresse de ce texte, c'est que Dieu est digne de confiance pour pouvoir avoir besoin de ceux qui sont partenaires dans l'Évangile. Ça, c'est le premier contexte principal, le texte dans son contexte. Il y a l'évangéliste, il y a l'Église, et Dieu est digne de confiance pour pouvoir avoir besoin de ceux qui sont partenaires dans l'Évangile, l'évangéliste et l'Église. Et bien sûr, il va y avoir aussi des applications pour nous. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous deux aspects de cette vérité. Alors, tout d'abord, le fait que Dieu, cette vérité, est digne de confiance pour pouvoir aux besoins de ceux qui sont partenaires dans l'Évangile est illustré par le contentement de Paul. Et regardez votre texte encore au verset 11b, que dit Paul, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Et en passant, le « où » il manque un accent grave. Je n'arrive pas à le trouver sur mon ordinateur. Si quelqu'un ici est un bolet dans l'informatique, vous viendrez me voir après. C'est le seul que je ne trouve pas. Où je me trouve? Ça, c'est une déclaration frappante de la part de Paul. Un homme humainement parlant, à cause de sa situation difficile, il y a toutes les raisons pour chioler. Il est dans un cachot romain. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une étoile un hôtel à 5 étoiles, loin de là. Il est dans une cellule qui est probablement froide et humide. La nourriture, c'est définitivement pas du steak, un bon sirloin steak, là, avec une belle sauce et des bonnes patates pilées. Ça, oublie cela. Je ne sais même pas si Paul mange à sa faim dans cette cellule. Et à cause de la persécution intense que les chrétiens rencontraient à cette époque, il y a une menace de mort qui plane sur sa tête. Et comme j'ai dit, humainement parlant, il y a toutes les raisons de se plaindre, de chialer, comme on dirait en bon québécois. Mais non, malgré ces circonstances difficiles, il déclare, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et je me demande ce matin si vous et moi, nous étions dans la même situation. si nous serions capables de dire la même chose. Et si on est honnête, là, la vérité, c'est que on chiale pour beaucoup moins que ce que le pote est en train de vivre. Mais revenons à Paul. Qu'est-ce qui l'a poussé justement à faire une telle déclaration? Comment il a pu dire une telle chose qui nous semble tout à fait illogique? Alors avant de répondre à ces questions-là, il faut retourner au verset 10, où est-ce qu'il va parler justement, il introduit justement son sujet, avec justement le verset 10, qui nous parle d'un don, un don reçu. Et ce don engendre chez Paul, malgré ses circonstances difficiles, une joie reconnaissante. Il va dire justement aux Philippiens, « J'ai éprouvé une grande joie de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Paul est en train de le dire, « Écoute, j'ai reçu votre don, ça me donne de la joie, j'en suis reconnaissant et même les situations difficiles, il est capable d'être joyeux et reconnaissant. » Et vous savez, nous avons un texte dans 1 Thessaloniciens 1:8 qui nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors ça, c'est sa réaction. Il est dans la joie. Il y a une deuxième réaction aussi à propos de ce don. C'est un amour souciant. Il va apprécier justement l'amour souciant des Philippiens pour lui à son égard. Au verset 10b, nous lisons ceci. « Vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien. » Autrement dit, ce que Paul est en train de leur dire, « Ce don que vous m'avez envoyé, je l'aperçois comme un don d'amour. Parce que vous m'aimez et vous l'avez fait de bon cœur, personne ne vous a tordu le bras, je l'apprécie. » Imaginez, un homme dans une situation difficile, il est capable de regarder ce qu'il a reçu et de dire à ces personnes-là, « J'apprécie ce que vous avez fait à mon égard. » Et vous savez, cet amour de Paul pour les Philippiens, c'était réciproque. Parce que dans le chapitre 1, au verset 7, Paul va leur dire, « Je vous porte dans mon cœur. » Il les aimait. Et les Philippiens aussi, à leur tour, aimaient Paul. Et ils avaient démontré cela maintenant qu'ils se souciaient de leur évangéliste bien-aimé en envoyant ce don pour l'aider dans ses besoins. Et troisièmement, à travers le don, nous avons une compréhension excusante. Au verset 10, il leur dit ceci, « Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Comme on l'a dit dans l'introduction, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient rien reçu de cette église. Et Paul les rassure, écoute, je ne suis pas fâché, je ne suis pas rancunier, je doutais même pas, ça fait 10 ans, vous ne m'avez rien envoyé, mais soyez rassurés que je n'ai pas de mauvais sentiments à votre égard. Je sais que vous n'étiez pas capable, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais Paul il dit, écoute, soyez rassurés, je ne prends pas ça comme... Ah, tiens, il t'étend là qu'il m'envoie quelque chose. Il dit, je sais que ce n'était pas votre faute. Et ça, tout cela, c'est une belle attitude. Vraiment, d'être reconnaissant, il est compréhensif, il peut apprécier ce don à sa juste valeur. Et on voit que Paul, même dans ces situations difficiles, ses regards sont tournés envers les autres et pas envers lui-même, en train de se plaindre sur ce qu'il est en train de vivre, mais plutôt en train d'encourager les personnes qui participent avec lui dans l'Évangile. Et ça, c'est une vraie, justement, application de ce texte, donc, Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et laissez-moi vous dire, seulement un homme ou une femme qui vit dans le contentement peut avoir une telle attitude. Pas de chiolage, pas de critique, rien. Et tellement de belles choses qui découlent face à ce don qu'il a reçu. Mais à travers aussi le contentement de Paul, c'est pas seulement face à ce don, mais on voit aussi à travers la discipline de Paul. Il va leur dire au verset 11 et 12, et ça c'est la question, ça va être des réponses maintenant aux questions que nous avons posées. Comment se fait-il, dans les conditions extrêmement difficiles, il a pu dire « j'ai appris à être content ». Comment est-ce possible? Alors, retournons au verset 11. Il va leur dire ceci, « ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela ». Et pourquoi est-ce que Paul va leur dire cela? Parce que bon enseignant qu'il est, il est soucieux qu'ils comprennent bien la source de son contentement. Il ne veut pas qu'ils pensent ainsi, « votre don m'a fait du bien, a comblé un besoin chez moi, alors ce serait bien que vous continuiez à m'envoyer ». Il ne veut pas qu'ils sentent là qu'il y a une certaine pression venant de sa part, pour que eux comblent ses besoins matériels. Nous avons aussi une traduction dans Parole de vie qui dit ceci, « Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. » Et quel contraste avec certains télé-évangélistes de nos jours, où est-ce qu'on ressent justement une pression, parfois très très forte, justement pour envoyer des dons. Je ne suis pas en train de les condamner, ça c'est entre eux et Dieu, mais juste une exhortation, soyons vigilants, usez de discernement. Et pourquoi est-ce que Paul ici veut dire à ces Philippiens, je ne focalise pas sur mes besoins matériels, parce qu'il sait qu'il y a un besoin plus important, être comblé, et quand ce besoin est comblé, on peut faire face à tout ce que la vie peut nous apporter du bien et du mal. Et qu'est-ce que c'est? C'est la discipline du contentement. Paul va le dire au verset 11b, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Bible en français courant dit ceci, « J'ai en effet appris à me contenter toujours avec ce que j'ai. » Et juste en passant, juste une petite remarque, le mot « appris » est très intéressant. Dans le texte original, c'est un mot qui était utilisé pour parler des rites d'initiation. Tu voulais faire partie là, d'un culte quelconque, on avait des rites d'initiation, un peu comme un chevalier de colon. Il y avait justement des choses secrètes là, qu'il fallait faire, et on utilisait ce mot-là. Et alors Paul dit « j'étais initié, justement ». Dans le contentement, par les circonstances de la vie, il avait été à l'école de la vie et Jésus-Christ, dans sa souveraineté, à travers les bons coups et les mauvais coups, qu'il va décrire au verset 12, il va dire, je sais vivre dans l'humiliation des mauvais coups, je sais vivre dans l'abondance, je sais comment être rassasié d'avoir faim, d'être dans la disette et ainsi de suite. Qu'importe, Paul dit, par le Seigneur Jésus-Christ et à son école, j'étais initié à le contentement. Avant de recevoir le don des Philippiens, Paul vivait dans le contentement. Après avoir reçu le don des Philippiens, Paul vivait encore dans le contentement. Avec peu, avec beaucoup, c'est pareil pour Paul, il sait se contenter de ce qu'il a. Et laissez-moi vous dire, bien-aimé, ça c'est une discipline extrêmement difficile à apprendre. Rares sont ceux qui sont capables de maîtriser cela. Et ce n'est pas surprenant que dans le livre des Proverbes, nous avons nommé Augure, fils de Jacquée. Il est conscient de cette problématique. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne me donne ni richesse ni pauvreté. Donne-moi juste le pain qui m'est nécessaire. Parce que ce n'est pas facile vivre avec peu. Et ce n'est pas facile non plus vivre avec beaucoup. Mais Paul y a pris la discipline. peu ou beaucoup, il dit, je suis content avec ce que j'ai. Et même si c'est une discipline difficile à maîtriser, nous ne devrions pas penser que c'est juste pour les super spirituels. Comme Paul, ok, c'est un évangéliste, par excellence, un homme qui a été beaucoup utilisé par le Seigneur. Ah, c'est correct pour lui, mais nous, les communs des mortels, les chrétiens, bof, bof, on va s'en passer. Non, c'est pas comme cela. Nous avons deux textes, dans 1 Timothée 6, qui nous dit ceci, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Et ça s'adresse à tout chrétien. Et dans Hébreux 13, 5, nous nous disons ceci, « Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Alors, dans le pratico-pratique, quelqu'un a dit ceci, « Le contentement, c'est de vivre en se confiant dans la providence de Dieu. » Paul va dire, « L'occasion vous manquait. » Alors, je n'ai pas reçu votre don, mais en arrière de cela, là, je savais que le Seigneur était en contrôle. Vous n'étiez pas en contrôle, mais Dieu est en contrôle. Et je compte sur Dieu. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Matthieu 6, 32 va dire ceci, « Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. » Vivre aussi indépendamment des circonstances. J'ai appris, il a dit, être content de l'état où je me trouve. Avec beaucoup, peu, je vis indépendamment des circonstances. Et aussi, c'est se vivre satisfait avec ce que nous avons, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, on est satisfait. Abondance ou disette, on est satisfait. Et en passant, quelles sont les deux choses qu'il nous faut en réalité, là? La nourriture et le vêtement. Et que dit le texte dans 1 Timothée 6, 8? Si nous avons cela, cela nous suffit. Hein? Quelqu'un aussi a dit une autre façon de voir le contentement. Ça nous permet d'accepter la situation. Ça nous permet de s'adapter à la situation. Pourquoi est-ce que Dieu permet-il des saisons de disette, de vaches maigres et d'abondance? C'est pour nous apprendre que dans la disette, c'est Jésus qui est plus que les richesses. Et quand nous sommes dans l'abondance, Jésus vaut plus que les richesses. Les deux sont vrais. Et finalement, une bonne façon de voir le contentement, c'est de s'approprier notre situation. Toute saison, que ce soit maigre ou que ce soit grasse, ça devient une occasion justement de faire connaître le Christ. Et ça, c'est un bon exemple ici que Paul est en train de nous démontrer. Alors, le contentement vu à Paul à travers le don, à travers la discipline. Et troisièmement, on vient à sa devise. Et quel bel beau texte. Paul, il va dire ceci, verset 13 maintenant. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est le secret de son contentement. Et en passant, c'est un texte qui est souvent cité hors contexte. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Mais je peux vous dire qu'est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire. Il n'est pas en train de dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, accomplir tous vos rêves, simplement mettre Jésus dans l'équation et hop, ça va s'accomplir. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Et si on veut pousser ça aussi à l'absurde, vous pouvez vous mettre devant un train qui file à toute allure et par la puissance de Christ, vous parviendrez à l'arrêter. Pas en train de dire ça non plus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et pourquoi mentionne-t-il cela à ce moment précis après avoir parlé du contentement? Alors, pour comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire, il faut regarder le sens du mot grec, autarkes. Et ce mot était très familier dans la culture gréco-romaine. Ce mot a été approprié par les philosophes stoïciens pour décrire le but qu'ils voulaient atteindre. Alors, pour être content, selon ces philosophes, c'était de se distancer des affaires de la vie, d'être indépendant de tout, soit des choses ou des gens. Ils se voyaient comme, on dit souvent en blaguant, là, avant besoin de rien, là. Mais les stoïciens étaient un peu comme cela, avant besoin de rien. Et surtout, pas besoin de Dieu, pas besoin de sa parole, pas besoin de l'Église. Et pour ne pas être affectés par les affaires de la vie, ils avaient développé une attitude de résignation, une sorte de bof, de je m'en fiche, m'en fichisme, si vous voulez. Alors, s'ils brisaient une vase précieuse, bof, je m'en fiche. S'ils perdaient leur chien, bof, je m'en fiche. S'ils perdaient un être cher, bof, je m'en fiche. Et quelqu'un avait dit, les stoïciens avaient transformé le corps en désert et ils appelaient ça la paix. Il n'y a rien, rien qui me touche. Et dans cet état, ils se voyaient comme en étant autosuffisants. Il n'y a pas besoin de rien. Ce qui est intéressant avec Paul, Paul va prendre le même mot, il va le christianiser. Il va lui donner un sens maintenant biblique. Pour Paul, être content, c'est de faire face, pas fuir, là, c'est faire face aux circonstances de la vie avec une ferme foi en Dieu qui est souverain et qui est bon. Et qui a dit, pour citer Hébreux 13, 5, après avoir dit « Contentez-vous de ce que vous avez », Dieu a dit « Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point ». Alors, pour les stoïciens, faire face à la vie, nous avons besoin de rien, nous sommes autosuffisants. Pour Paul, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis Jésus suffisant. Quelle différence entre les deux. Et ça, c'est justement pourquoi il a pu dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Faire face à la vie. Remarquez bien que Paul n'a pas dit « Je ne peux pas. » Ce serait du pessimisme. Et ça, c'est un peu comme les 10 espions que Moïse avait envoyés avec Josué et Caleb, n'est-ce pas, dans le pays de Canaan. Et qu'est-ce qu'ils sont revenus? Ils ont donné un mauvais rapport. On a vu des géants, des enfants d'Anak, nous étions comme des sauterelles à nos yeux et au leur. On ne peut pas y aller. Paul n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus « Je peux » tout seul. Ce serait comme cet homme riche dans l'évangile de Luc. Ses terres avaient beaucoup rapporté. Il dit « Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais abattre mes greniers, je vais en construire un plus grand et je dirai à mon âme... Tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Relax, prends la vie, ben smooth. » Et qu'est-ce que Dieu a dit? Insensé. Alors, pour les enfants d'Israël, l'incrédulité pour cet homme ici est insensée. Mais pour Paul, il y a la différence. Là. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est la puissance. Et ça, c'est l'inspiration pour les Philippiens et pour vous et moi. Et quand nous avons appris justement le secret du contentement, ça c'est l'un de nos plus grands besoins après le salut, quand cela a été comblé, nous avons appris que non seulement Jésus sauve, mais que Jésus est suffisant dans toutes les circonstances de la vie. Rapidement, ce matin, je ne vous donnerai pas des applications pour ça. Je vais vous donner juste l'implication. Parce que le verset 13 nous dit que nous pouvons faire face par la puissance de Christ à tout ce que Dieu permet dans notre vie. Et comment se fait-il qu'on a tant de difficultés, je parle pour moi-même, à vivre dans le contentement? Et comme je l'ai dit, je ne mettrai pas à vous donner des exemples, mais je vous donnerai juste l'implication de ce texte. Quand nous sommes dans le mécontentement avec ce que Dieu permet dans notre vie, dans un premier temps, c'est d'être méfiant à l'égard de Dieu. Et ça, ce n'est pas nouveau. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, tout de suite, il y a une méfiance qui s'est installée entre le Créateur, qui est bon et qui les aimait. Et qu'est-ce qu'Adam a dit? J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur et je me suis caché. La méfiance. Et quand Dieu permet des saisons, comme je dis, de vaches maigres, souvent quand on n'est pas content avec ce qu'il permet, on est dans la méfiance face à Dieu. C'est aussi de traiter Dieu d'incompétent. Est-ce que Dieu sait exactement qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'était problématique d'Israël. Combien de fois on voit justement un gang de chiens là, qui sont dans des airs et ils sont en train de dire toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi? Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir dans les airs. Et pourtant, Dieu nous avait sorti justement d'Égypte avec une puissance. Il avait fendu la mer Rouge en deux, ils ont passé au pied sec. Et ce même Dieu était capable de pourvoir leurs besoins. Ils n'ont jamais appris la leçon. Mécontent. Et troisièmement, c'est de douter de l'amour de Dieu pour nous. Si, mais pourquoi est-ce qu'il permet telle chose dans ma vie? Mais vous dire que la preuve absolue de l'amour de Dieu, on le trouve à la croix, comme nous avons vu ce matin lors du repas du Seigneur. Dieu prouve son amour envers nous dans le sacrifice de son Fils. Et ça, c'est l'implication, là, quand on est dans le mécontentement. Et comme je vous ai dit, si vous luttez avec cela, qu'on lutte tous avec cela, mais le Saint-Esprit nous montrera comment faire justement les applications pour rectifier la situation. Deuxièmement, on est rendu à Dieu est digne de confiance pour pouvoir avoir besoin de ceux qui sont partenaires dans l'Évangile. On a le compliment adressé à l'Église. Ce qui est autour verset 14, il a dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et même si Paul ne focalise pas sur le don parce qu'il a pris le contentement, il voulait leur dire que ce que vous avez fait pour moi, c'est une bonne action. Une bonne action. Et pourquoi c'est une bonne action dans un premier temps? C'est parce que le don envoyé par les Philippiens est une bonne action parce que c'est une action qui démontre une église responsable. Quand Paul est allé là, pour prêcher l'Évangile. Après ça, il est parti ailleurs. Et cette église avait à cœur, justement, l'œuvre de l'Évangile. Ils sont allés voir Paul. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait, justement, en étant partenaire avec toi, dans le salut des âmes, pour, justement, faire progresser l'Évangile. Et Paul, il a dit, vous êtes la seule église qui m'a posé cette question. Qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on on reçoit? Et vous savez, ça, c'était un principe parce que pour les évangélistes itinérants, le Seigneur a dit ceux qui prêchent l'Évangile devraient vivre de l'Évangile. Et Paul leur a dit aux Corinthiens, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce que c'est une grosse affaire de moissonner vos biens matériels ou temporels? Alors, il y avait justement dans la parole de Dieu, les églises qui avaient bénéficié du ministère, justement, de l'apôtre, l'évangéliste itinérant, devrait aussi en retour l'aider. Et ils sont allés voir Paul et ont demandé, c'est quoi notre responsabilité? C'est quoi notre devoir? Et à travers le don, ils sont en train justement de démontrer qu'ils avaient pris. Et comme on dit souvent, les babines les bottines ont suivi les babines. Il avait envoyé des dons. Il dit, vous envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Trois dons avaient suivi Paul avant le don qu'ils ont reçu ici. Et Paul lui dit, ça fait de vous une église responsable. Mais aussi, il y a un deuxième aspect. Il voulait maintenant leur enseigner une autre chose. À travers ce don, on voit une église récompensée. Il va dire ceci. Ce n'est pas que je recherche, je pense qu'il y a quelqu'un ici, j'espère que vous n'êtes pas trop faim, là. Ce n'est pas que je recherche le don, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. Paul est en train de le dire, vous m'avez fait un don, ça m'a fait du bien, mais c'est pas la chose la plus importante. En faisant cela, vous êtes en train d'investir dans un compte qui va payer des dividendes spirituels. Ça, c'est ce qui est important. Et c'est intéressant de remarquer, Paul y avait semé spirituellement parmi ce peuple, lui il reçoit matériellement. L'Église avait semé matériellement, puis elle allait recevoir spirituellement. Il dit, vous allez voir du fruit. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir du fruit. Dieu va vous repayer. Et nous avons un beau texte dans Hébreux 6, 10, qui nous dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Galates 6, 10 nous dit ceci. Pourquoi? Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et le verset 18, Paul Paul est comblé, il est dans la joie, dans l'abondance, il est reconnaissant. Ça monte au ciel, il dit, votre don, là, c'est devant le trône de Dieu, c'est comme un sacrifice agréable que Dieu accepte. Ça fait plaisir à Paul, ça fait plaisir à Dieu, ça fait plaisir aux Philippiens d'avoir donné. Alors, tout le monde est gagnant. Alors, on voit ici une église responsable. On voit une église qui est récompensée. Mais finalement, ici, en le contexte, justement, du contentement et que Dieu va pourvoir, nous allons voir une église qui est rassurée. Paul va dire ceci, « Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tellement important. Et comme je dis, gardez ce texte dans son contexte. Ces gens ici, cette église est extrêmement pauvre. Il vient de faire un gros sacrifice en tant que partenaire dans l'évangile avec Paul pour soutenir l'œuvre et l'évangéliste. Et Paul maintenant veut le rassurer qu'en donnant, il ne sera pas appauvri, mais au contraire, en plus de récolter des dividendes spirituels, Dieu ferait en sorte, en pourvoyant à leurs besoins matériels, que cette église pouvait continuer à faire de bonnes actions de libéralité. Ça, c'est le contexte de ce texte ici. Vous m'avez donné. Ça va être à votre compte, ça va porter fruit, et Dieu va combler maintenant, et vous continuez à vous donner pour que vous puissiez continuer à donner, pour voir à tous vos besoins. Et dans 2 Corinthiens, pas besoin de les tourner, 9, on a ce même principe. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et semer peu, ce serait de pas faire confiance à Dieu. Mais il y a un beau texte de verset 8 qui nous dit ceci. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il fait de largesse et il a donné aux indigents. Ils sont en train de dire aux Philippiens, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Il n'est pas le débiteur de personne. Quelqu'un a bien dit, on prend notre petite pelle, on donne ça à Dieu. Dieu prend sa grosse pelle, il nous remet. Mais la différence, c'est que la pelle de Dieu est plus grosse que la nôtre. Okay. Ça, c'est la leçon qu'il est en train d'apprendre ici. Alors, Dieu est digne de confiance. Digne de confiance, que ce soit pour Paul, l'évangéliste, où est-ce qu'il a pris la discipline du contentement, que ce soit pour les Philippiens qui sont très pauvres, mais qui donnent, Dieu est digne de confiance. Et ça, ce matin, vous laissez avec cela, c'est un encouragement pour nous. En temps, maintenant, je fais une application en ce qui concerne l'Église, parce que ici, dans le contexte, c'est une Église qui est rassurée. Que nous pouvons être généreux en temps d'Église, parce que Dieu pourvoira. Et une Église qui est heureuse, c'est parce que les membres sont généreux. Et je sais que nous sommes généreux aussi. Et je loue Dieu pour cela envers nos missionnaires et on soutient l'œuvre de Dieu à travers cela. Alors, quelle est la réponse appropriée de tout cela? Mais il y a juste une seule réponse. Une seule réponse qui est possible. Et Paul le dit au verset 20, « À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. » Dieu est digne de confiance. Et on a commencé notre marche avec Dieu avec un pas de confiance. Quand le Saint-Esprit nous a révélé notre péché, et on a vu que nous étions séparés de Dieu, exposés à sa colère, et nous avons vu Christ à la croix, mourant, en train de mourir pour nous les impies, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis notre confiance dans cette œuvre. Et maintenant, Dieu nous demande par la foi de continuer dans cette même veine. Et ce matin, si vous n'avez jamais fait cela, vous n'avez jamais mis votre confiance dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à le faire. Dieu vous sauvera, vous pardonnera et il deviendra votre Père qui est bon, qui est juste, qui aime ses enfants et qui prendra soin aussi de vous en pourvoyant à vos besoins. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te demandons simplement que tu puisses prendre tes paroles, Seigneur, de l'appliquer à nos cœurs avec puissance, et que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique. Bénis-nous, bénis ton peuple. Merci d'être un Dieu qui est si généreux, qui fait de largesse et qui nous aime d'une manière indescriptible. Te demandons de nous séparer avec ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen.